Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture. La 46e édition du Florilège Vocal de Tours, compétition internationale de chant choral, se tenait du 26 au 28 mai 2017. 7 chœurs, 6 pays, 3 jours de concert. Cinéma Paradiso et Le Dahu vous proposent deux émissions spéciales à cette occasion. Vous entendrez ici Sébastien Durand, président du Florilège Vocal de Tours, et le quintet Piccolo. Bonne écoute. Monsieur le Président, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, nous sommes à la 46e édition du Florilège, je crois.
Oui, Florilège Vocal de Tours, donc concours international de chant choral.
Alors, depuis combien d'années êtes-vous président de cette institution ?
Alors, en fait, ça doit être la 4e année maintenant. Voilà, depuis, oui, 2014, mais j'avais pris un petit peu avant. Et ça fait déjà de nombreuses années que je suis dans l'association avant d'être président. Voilà, une dizaine d'années très exactement que je suis membre de l'association et actif dans l'organisation de cet événement.
Je suppose que vous avez un intérêt particulier pour le chant choral. Comment vous avez venu cet intérêt ?
Alors en fait, c'est aussi mon métier parce que je suis à la fois, j'enseigne à l'université François Rabelais et puis je suis chef de chœur et chef d'orchestre de formation et j'ai longtemps, je le fais encore de manière ponctuelle, mais j'ai longtemps dirigé des chœurs, des orchestres, donc c'est tout à fait un univers que j'adore et que je connais bien.
Donc le festival est né en 1962.
Alors il y a une grande richesse parce que effectivement c'est à la fois une tradition et à la fois je dirais un événement culturel qui a toujours évolué au fil des années. C'est pas quelque chose qui est resté statique, figé. Il y a eu toujours des nouveautés. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire un petit peu le lien, ben, l'idée c'est qu'on a gardé l'esprit fondamental, on va dire, de l'événement, c'est-à-dire l'échange par la musique, la rencontre entre des chœurs venus du monde entier, l'intérêt pour l'excellence de la polyphonie chorale et en même temps le partage, la rencontre. Voilà, je crois que c'est vraiment la philosophie qui a été impulsée dès le début de la création de ce concours et qui ne s'est jamais démentie depuis.
Donc vous me parlez quand même de professionnel, c'est un concours qui a une envergure internationale, mais comment vous arriver aussi à intéresser les Tourangeaux à cette manifestation ?
Alors, d'abord, il y a effectivement une grande tradition aussi dans le public, c'est-à-dire qu'on a à la fois tous les ans du public nouveau qui nous rejoint, on en est bien heureux, et il y a aussi un noyau dur de public fidèle qui vient pas seulement de Touraine d'ailleurs, mais on peut dire de toute la France, puisque nous sommes le seul concours international de chant choral sur notre pays. Donc, c'est effectivement un concours qui intéresse beaucoup les mélomanes, les amoureux du chant choral. Et le lien, vous me posiez la question du lien avec les Tourangeaux, il se fait de deux manières, donc par le public et aussi par les chœurs, parce qu'il y a de nombreuses chorales en Touraine et de nombreuses chorales de grande qualité. Et les chœurs Tourangeaux, bah nous les associons d'ailleurs depuis 3 ans maintenant avec ces avant-concerts que nous avons mis en œuvre, des mini-concerts qui ont lieu en avant-concours, avant le concours, dans le péristyle du Grand Théâtre et qui permettent d'entendre des chœurs tourangeaux qui se produisent donc un petit peu avant le concours et les chœurs internationaux présents à Tours.
Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être quelques-uns de ces chœurs tourangeaux qu'on aura le plaisir d'entendre cette édition ?
Alors, il y aura effectivement un chœur de Saint-Avertin qui s'appelle Chant-Avertin, qui va chanter demain en ouverture du concert en plein air Place de la Résistance, donc le dimanche. Et puis nous avons également un autre chœur ce soir. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, bah, il y a un croisement entre des chœurs amateurs qui ont déjà un bon niveau, mais qui peuvent rencontrer des chœurs aussi amateurs, parce que je tiens à préciser que même si le niveau des chœurs internationaux qui se produisent ici est un niveau, on peut dire, professionnel, mais ce sont des chœurs amateurs, c'est-à-dire en ce sens que les choristes ne sont pas rémunérés comme peuvent l'être des chœurs professionnels dans les radios ou d'autres, voilà. Donc il y a une rencontre qui se fait et c'est tout à fait salutaire pour découvrir d'autres façons de chanter, une autre exigence et en même temps du répertoire. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on ouvre ses oreilles et son esprit, je dirais.
Et il y a aussi le concert de clôture, je crois, qui est en plein air. Donc là, pour le coup, tout le monde peut venir, choriste
voilà, alors,
ou pas.
Effectivement, si tout va bien, c'est en plein air. Alors en général, depuis de nombreuses années, ça a pu se faire sans problème. C'est donc dimanche à 18h, place de la Résistance, à Tours. Il ne faut pas s'inquiéter, ceci dit, si jamais le ciel n'était pas trop clément, il y a un lieu de repli qui est le Grand Théâtre de Tours. C'est ce qui s'est passé l'an dernier. Le Grand Théâtre de Tours était plein à craquer, puisque nous avons eu une météo défavorable. Mais cette année, j'espère que tout ira bien et que nous pourrons profiter des arbres de la place de la Résistance.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur vos autres occupations musicales en dehors de ce concours, puisque vous disiez que vous en avez fait votre vie, de la musique et du chant?
Oui, complètement. Alors déjà, il est vrai que je reviens quand même un petit peu sur le concours, ça m'occupe beaucoup, parce que comme nous sommes le seul concours en France international de chant choral, mais nous faisons partie d'un groupement qui s'appelle le Grand Prix Européen de Chant Choral. Hein, donc les lauréats des concours partenaires, hein, nous sommes partenaires avec des concours, le concours de Debrecen en Hongrie, le concours d'Arezzo en Italie, le concours de Varna en Bulgarie, celui de Maribor en Slovénie et celui de Tolosa en Espagne. Et donc je vais aussi écouter les autres concours partenaires, c'est très important. Ça me permet de rencontrer bien sûr nos homologues européens, de rencontrer de nombreux chefs de chœur et de nombreux chœurs. Et c'est tout à fait passionnant parce que ça permet d'entendre évidemment énormément de chœurs de très grande qualité, mais aussi ça permet de discuter avec les chefs de chœur, les choristes, les membres du jury, voilà. Et en discutant avec eux, c'est toujours tout à fait enthousiasmant parce que ça permet de se rendre compte aussi que la ville de Tours et le concours de Tours, particulièrement le florilège vocal, est connu vraiment dans le monde entier. Concernant mes autres occupations, effectivement, je suis musicien, donc comme je l'ai dit, j'ai beaucoup fait de direction de chœur, direction d'orchestre. Je suis aussi organiste. Et puis, donc, j'enseigne à l'université François Rabelais. J'enseigne au centre de formation des musiciens intervenants. Donc, il y a un département de l'université François Rabelais où nous formons les étudiants, les futurs musiciens intervenants qui vont travailler pour faire de la musique aux enfants dans les écoles, essentiellement.
Est-ce que ça vous apporte quelque chose de particulier, cette idée d'apprendre à des jeunes gens à transmettre la musique? Est-ce que cette idée de transmission d'un savoir musical, une pratique musicale, c'est important pour vous?
Et oui, c'est fondamental parce que on a coutume de dire, malheureusement, et encore une fois, les voyages que j'ai la chance de pouvoir faire en Europe me montrent qu'il y a d'autres traditions dans d'autres pays un peu plus ancrées sur la musique dès le plus jeune âge, et notamment sur le chant. Et donc le fait de pouvoir transmettre aux jeunes enfants, de former les petits et les plus grands, c'est la façon, à mon avis, la plus importante d'assurer l'avenir musical de notre pays. Et ces jeunes enfants à qui on essaie de donner le goût à la musique dès leur plus jeune âge, ce seront à leur tour des musiciens, des chanteurs et des gens qui aimeront la musique, qui iront au concert, qui auront envie de se cultiver, de cultiver leur oreille. Et donc je pense que c'est effectivement fondamental.
À quoi ça ressemblerait une vie sans musique, à votre avis?
Ah, ça serait vraiment un paysage de désolation, quelque chose comme ce qu'on peut imaginer après une guerre nucléaire. Voilà, l'absence, pour moi, ce serait l'absence de couleur, l'absence de relief, un paysage de désolation. Oui.
Bon, eh bien, j'espère que ça n'arrivera pas, en tout cas, durant ce bel événement. Peut-être, voulez-vous nous dire un mot sur les chorales qui sont invitées cette année?
Oui, alors donc, les chœurs que nous invitons sont des chœurs qui sont sélectionnés. Il y a une commission musicale donc à laquelle j'appartiens au niveau du florilège vocal, et nous écoutons les enregistrements qui nous sont proposés par les chœurs qui candidatent pour venir passer... pour venir participer à ce concours. Et puis donc, cette année, nous avons une riche palette de pays et de diversité musicale, puisque nous avons deux chœurs philippins, nous avons un chœur qui vient des États-Unis, un chœur italien, un chœur espagnol. Donc voilà, c'est une pluralité, une diversité de pays, de pratiques chorales, et tous réunis autour de leur passion pour le chant choral, pour la musique.
Bon, nous irons l'écouter avec grand plaisir. Merci à vous.
Merci.
Je n'aimerais pas vivre en Amérique, mais parfois si.
Je n'aimerais pas
vivre à la belle étoile, mais parfois si.
J'aimerais
bien vivre dans le cinquième, mais parfois non.
Je n'aimerais pas vivre dans un donjon.
Mais parfois si.
Je n'aimerais pas pas vivre l'expédience. Et parfois si, j'aime bien vivre en France. Mais parfois non, j'aimerais bien vivre dans le Grand Nord. Mais pas trop longtemps.
Je n'aimerais pas vivre dans un hameau. Mais parfois si,
je n'aimerais pas vivre à Issoudun. Mais parfois si,
je n'aimerais pas
vivre sur une joue.
Mais parfois si,
je n'aimerais pas vivre dans un xa.
Mais parfois si, j'aurais bien aimé aller sur la lune,
mais c'est un peu tard.
Je n'aimerais pas vivre au Negresco. Je n'aimerais pas vivre en Orion. J'aime bien vivre à Paris.
Mais parfois,
je n'aimerais pas vivre au Québec.
Mais parfois,
je n'aimerais pas vivre sur un récif. Mais parfois, si.
Je n'aimerais pas
vivre dans un sous-marin. Mais parfois si.
Je n'aimerais pas vivre dans une tour. Mais parfois si.
Je n'aimerais pas
vivre avec Ursula Andress.
Mais parfois si. J'aimerais vivre vieux. Mais parfois non.
Je n'aimerais pas vivre dans un wigwam.
Mais parfois si, j'aimerais bien vivre à Tsaradou, mais même pas pour toujours.
Je n'aimerais pas
vivre dans l'Yonne, mais parfois si.
Je n'aimerais pas vivre à Zanzibar,
mais parfois si.
Je suis en compagnie d'un groupe qui s'appelle Piccolo. Et dans un premier temps, je vais poser une question très très simple. Est-ce qu'on peut faire un tour de table et que vous vous présentiez ?
Emmanuel, la seule fille du groupe Piccolo.
Raphaël, je chante la voix de ténor dans le groupe.
Laurent, basse.
Christophe, plutôt baryton.
Et Étienne, plutôt la voix aiguë des hommes ou alors grave des femmes, donc alto ou contre-ténor, comme on veut.
Et l'autre question assez simple aussi. Comment, alors vous êtes un groupe assez ancien, j'ai lu du coup 1991, hein, je ne me trompe pas. Comment vous êtes rencontrés, comment il est né ce quintet?
En fait, on s'est rencontrés autour de la voix. On était tous instrumentistes au départ, mais on aimait particulièrement chanter. Et donc, ce sont d'abord des amis qui se sont rassemblés pour chanter, d'abord des reprises et assez rapidement des créations sans aucun instrument sur scène parce qu'on aime particulièrement la cappella.
Dès le début, vous vouliez chanter du coup à cappella, il n'a jamais été question de mettre des instruments?
En fait, non, au départ, on s'est accompagnés. On a eu des instruments de musique sur scène, guitare, trombone, clarinette, harpe. Et puis aussi des bandes enregistrées, contrebasse aussi. Puis finalement, le pari de la cappella s'est fait assez vite et assez naturellement, en se disant qu'il fallait qu'on se débarrasse peut-être de ces choses-là. Ce qu'on peut peut-être préciser par rapport à Emmanuel, c'est comme on est à Radio Campus, c'est qu'on s'est connus à la fac.
Comme formation, vous avez une formation particulière du coup en musique?
On est tous étudiants en musicologie, enfin ce qu'on appelait l'Institut de musicologie ou musique, fac de musique, je ne sais pas trop comment on dit, avec des cursus divers et variés et différents. Et puis, en fait, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu des petits accidents de parcours, c'est qu'un des membres du groupe est parti pour travailler. Et donc, c'est Raphaël qui est arrivé, c'est le dernier né du groupe, le petit dernier. Donc on a des parcours un petit peu différents. On est tous musiciens, on a tous un premier, un deuxième métier dans Piccolo, mais tous musiciens.
Et comment d'ailleurs on arrive dans un groupe du coup qui est déjà constitué? Ça a été facile?
Ouais, c'était un peu un défi parce que c'était un groupe constitué depuis presque 25 ans, enfin depuis une vingtaine d'années au moment où je suis arrivé. Et donc, c'était pas facile pour eux, je pense, ni pour moi, mais je connaissais le groupe depuis un certain temps pour les avoir vus sur scène. J'avais beaucoup apprécié leur travail et j'étais moi-même habitué au chant choral, disons, en général.
Il a fallu qu'on l'intègre et il a fallu qu'il nous supporte. Ce qui n'était pas gagné au départ.
On va parler des conceptions des morceaux. On a pu du coup vous entendre hier en première partie là au Grand Théâtre. Comment ça se construit en fait pour créer cette harmonie qui est quand même assez totale sur scène. Vous partez de morceaux qui est à l'origine où tout le monde est à l'origine d'un morceau particulier. Comment ça se gère ça?
Alors on est trois en fait. Parfois même quatre à écrire les différents arrangements, parce qu'évidemment ça suppose, le fait de chanter à quatre hommes plus une femme suppose des arrangements particuliers, spécifiques pour notre formation. Et donc on écrit nos partitions et après il y a des heures et des heures et des heures de travail pour effectivement coordonner tout ça et faire que ça ressemble avant tout à un groupe vocal et pas à des individualités qui se croisent.
Et du coup, plusieurs heures, ça, c'est combien du coup, pour un morceau, du début à la fin sur scène, ça, vous comptez pas?
C'est difficile de compter. Si on part vraiment de la première écriture, de la première note, il faudrait même partir de la première idée. C'est vraiment compliqué. On a beaucoup travaillé en période de répétition, plutôt sur des week-ends. On fait d'abord la musique, ensuite on est plutôt sur la mise en scène. L'un d'entre nous écrit des pièces qui sont parfois plus pensées pour le théâtre et donc il va expliquer un petit peu comment il gère ça. C'est vrai que par exemple moi c'est plutôt la musique et ensuite les paroles et ensuite on voit ce qu'on peut en faire, mais certains pensent théâtre d'abord, n'est-ce pas Christophe?
Ouais, vous avez bien raison Étienne, merci de me donner la parole. C'est-à-dire qu'au bout de toutes ces années de création commune, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est trouvé, j'ose dire, un univers picolien avec des sensibilités assez différentes. Alors, sur le timing que tu évoquais, ça peut être des années, c'est-à-dire une chanson qui trotte dans la tête, une histoire, un truc, une anecdote, qui donne un texte, puis un texte qui est mis en musique, etc. Ça peut être très rapide, ça peut être l'espace d'une nuit, c'est-à-dire un texte qui traîne dans un couloir, dans un tiroir, qui n'a pas été fait forcément par nous, et paf, qui devient une chanson du jour au lendemain. C'est déjà arrivé, vraiment. Et c'est ça, je pense, qui fait au final l'intérêt du spectacle, de l'univers de Piccolo. Comme Diane disait, des chansons qui sont pensées plus théâtre musical, donc déjà qui ne font pas l'objet de chansons et qui d'ailleurs ne sont pas enregistrées sur un CD. Et d'autres qui sont vraiment des chansons, quoi, avec un refrain, des couplets, etc. Enfin, qui pourraient être chantés en soliste avec une guitare.
Du coup, j'ai vu, il y a du coup, des albums hein, qu'on peut écouter sur des plateformes, puis il y en a évidemment en physique. Du coup, il y a des chansons qui sont pensées pour des albums et des chansons qui sont pensées pour le spectacle. Vous les dissociez?
Oui, non, c'est-à-dire qu'au départ, toutes nos chansons sont pensées pour être données sur scène. Et puis après, quand on les enregistre sur CD pour que les gens qui ont vu le spectacle repartent avec, on a tendance à les penser un petit peu autrement et à en faire vraiment quelque chose d'audio, de sonore, qui est avant tout une qualité sonore. C'est vrai que sur scène, on a tendance des fois à bouger énormément de par la mise en scène et on peut soigner un petit peu moins le son, tandis que là, le disque se veut vraiment avant tout musical, mettre en valeur le texte, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas sur scène, hein, mais les deux options sont un petit peu différentes et on peut changer par exemple le plan des chansons sur le CD. Il peut y avoir des grandes introductions sur scène parce qu'il se passe d'autres choses visuellement, on a d'autres choses à raconter par exemple.
Et du coup, vos spectacles, ils déroulent autour d'un même fil conducteur? Ou alors vous avez plein de chansons et vous essayez après coup d'avoir un fil conducteur?
C'est-à-dire qu'on travaille depuis 10 ans avec un metteur en scène parisien, Georges Gagneret pour ne pas le nommer. Et en fait, chacun fait des chansons dans son coin. Et puis on les rassemble et puis on voit ce qu'on peut faire pour raconter quelque chose. Alors c'est quelque chose qui peut être raconté de façon assez premier degré, mais la plupart du temps c'est quand même quelque chose qui est raconté avec un second degré, voire un troisième degré, sur un fil conducteur autour de la fille, par exemple, des choses comme ça. Mais non, on n'a encore jamais fait de spectacle pensé d'emblée pour être unitaire au départ.
Et ça, c'est facile, vous qui avez des formations de musiciens, de chant, de se mettre en scène aussi autant là, comme du théâtre.
En fait, pour nous, ça a été une véritable libération. D'abord, on est passé d'une expression derrière nos instruments à une expression purement vocale. Ensuite, on avait des micro-mains, notamment, et on est passé à des micro-casques qui nous ont permis vraiment de libérer les mains, les corps, et de pouvoir exprimer de la tête aux pieds, pas seulement en chantant, quoi. Donc, pour nous, l'expression théâtrale, elle est finalement assez importante.
C'est tout le paradoxe du chant. C'est-à-dire qu'on a l'image du chant choral, même si on ne peut pas dire que Piccolo, c'est vraiment du chant choral. On a l'image du chant choral assez statique, à l'ancienne, globalement. C'est que, comme disait Emmanuel, c'est une libération parce que le corps et les gestes aident indubitablement à l'expression. Mais si la musique est compliquée, c'est le revers de médaille, c'est que plus on bouge, moins bien on risque de chanter. Donc tout notre problème, il est là, c'est d'arriver à tout concilier parce qu'on est attendu à tous les coins du bois. Donc les chanteurs risquent de nous dire « Ah, c'est pas très bien chanté ». Les gens de théâtre disent « Oui, bon, la mise en scène, c'est pas terrible ». C'est ça qui est difficile dans notre affaire, c'est qu'on court beaucoup de lièvres à la fois du plan du spectacle et qu'il ne faut pas donner prise à que ce soit déprécié sous un angle ou sous un autre.
Ce qui est important pour nous, c'est que finalement, on fait du spectacle total, c'est-à-dire qu'on travaille la danse, on travaille l'écriture, on travaille le chant, on travaille le théâtre. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression de pouvoir exprimer quelque chose qui est vraiment notre, qui nous est propre sur scène.
Et au niveau de la voix, voilà, tout à l'heure, quand vous êtes présenté, vous avez dit un peu Alors, on parle de tessiture, c'est ça,
oui,
hein,
oui.
Et comment on arrive avec des tessitures différentes à homogénéiser le chant.
C'est-à-dire qu'on ne se rend pas forcément compte sur le temps, mais c'est qu'on oublie un peu dans notre affaire notre vocalité personnelle au service d'un son d'ensemble, justement. Donc ça, c'est très particulier aussi. Il ne s'agit pas simplement de savoir chanter dans son coin, mais de savoir se fondre avec les autres. Mais c'est inconscient. La plupart du temps, on ne se dit pas « je vais me fondre avec les autres ». Ça vient plus ou moins.
On travaille aussi sur les équilibres des accords. Ce qui est un petit peu spécifique au groupe vocal aussi, c'est qu'il n'y a pas un soliste accompagné par les autres. C'est que d'une phrase à l'autre, on peut devenir accompagnateur, avoir la voix principale, etc. Donc on est en permanence en écoute par rapport les uns par rapport aux autres. Et on a aussi travaillé, par exemple, avec des personnes qui viennent du cirque pour pouvoir sentir les choses ensemble en même temps sans se donner des départs ou sans se donner l'impression qu'on communique entre nous, c'est-à-dire qu'on essaie de communiquer sans en donner le sentiment parce qu'on est très à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, visuellement aussi bien sûr, et des états des autres.
Donc hier, on a pu entendre là, dans un des deux morceaux une adaptation d'un titre de Brassens. Hein. En parlant par exemple de celui-là, comment c'est venu, qui a eu l'idée et comment le morceau s'est construit?
Là, c'est un morceau un petit peu spécial. L'idée est arrivée par une personne extérieure au groupe, en fait, qui a proposé d'adapter un certain nombre de classiques de la chanson française. Et on a cherché et on est tombé sur ce titre-là, parce que pour nous, toucher à Brassens, comme toucher à Brel, ou toucher à Ferré, ou toucher à Ferrat, c'est compliqué. Et puis finalement, on s'est prêté au jeu, puis on s'y est collé. Et Christophe a préparé un arrangement qu'on a, entre guillemets, aménagé à cinq. C'est peut-être un des seuls arrangements, d'ailleurs, où chacun a mis un petit peu sa patte. Mais au départ, c'était pas forcément une idée. Bon, donc c'est vraiment une idée qui est arrivée de l'extérieur. Mais très souvent, quand les reprises reviennent, les idées de reprise reviennent de chants, c'est souvent très très personnel. On se dit pas tous ensemble, tiens, on devrait faire un Renault ou un Goldman ou un Bidule ou un truc. Non, c'est vraiment quelque chose et dans l'arrangement et dans la composition, c'est vraiment quelque chose qui vient, qui est un peu solitaire en fait. Voilà, c'est un petit peu, oui, c'est assez personnel.
On a un titre variété, et c'est quelque chose que vous aimez bien, ça, la variété. Est-ce qu'on pourrait définir, voilà, est-ce que la variété, c'est un peu un fourre-tout. Est-ce qu'on pourrait définir est-ce que vous avez une définition de la variété?
Alors ça, moi, je pense que c'est une bonne question pour Laurent, qui n'a encore rien dit, parce qu'il faut absolument que vos auditeurs entendent sa belle voix grave. Ils perdraient quelque chose si ce n'était pas le cas. Donc, Solène, passez-lui la parole.
Alors, il n'y a pas de bonne variété ou de mauvaise variété. Je pense qu'il y a une variété tout court. Non, je crois que dans variété, il y a beaucoup de choses, effectivement, et qu'il y a des chansons à texte. Et je crois que c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on adore, c'est ce qu'on aime défendre. Et la poupée de Brassens en fait partie.
Et on revient au fait de courir tous les lièvres à la fois, c'est-à-dire que non seulement des musiques qui sont parfois compliqués, un peu complexes, polyphoniquement, mais aussi des textes qu'ils ont aussi. Et tout le défi, c'est que tout ça, ça ne paraisse pas trop abscon, trop complexe sur scène. Voilà.
On a l'impression de voir que c'est facile et en même temps, ce n'est pas facile quoi, de faire ça. Donc, c'est tout le... Non, mais c'est, comme vous l'avez dit au début, c'est plein d'heures et d'heures de travail. Est-ce qu'on pourrait dire du coup qu'il y a eu une ambiance, alors tu parlais de picolienne, on pourrait définir ça comment du coup, c'est quoi être picolien?
Il faut se méfier parce que dans le mot déjà, il peut y avoir des jeux un peu bizarres dans Piccolo. L'ambiance est plutôt bon enfant. On essaye d'avoir une... C'est-à-dire que c'est évidemment le regroupement d'amis qui chantent, qui n'ont pas besoin d'être en vacances, toutes les vacances ensemble, tout ça, mais quand on se retrouve, on est vraiment là. La deuxième chose, c'est qu'on essaye d'avoir une démarche quand même, j'allais dire, professionnelle dans le travail. C'est-à-dire qu'au-delà de l'amitié qu'on peut se porter, il faut qu'on puisse se dire les choses au niveau musical et vocal et théâtral. C'est pas toujours évident, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment gérer. Et puis, ce qui est vraiment le plus important pour nous, c'est que ça sonne, quoi, c'est que ça résonne entre nous. C'est ça qui fait l'ambiance de Piccolo. L'idée, c'est pas d'être à la colle tous les sets, parce qu'il faut aussi imaginer qu'il y a un technicien lumière et un technicien son qui nous suivent tout le temps. On se départit jamais de ces deux membres de Piccolo qui sont vraiment très 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 importants. Et donc, chacun un petit peu vaque comme bon lui semble, mais quand on est ensemble, on est là. Voilà, c'est ça peut-être le point de retour. Emmanuel, tu voulais compléter?
Le maître mot, un petit peu, je crois que c'est qu'on a toujours beaucoup de plaisir à se retrouver, à chanter ensemble, à tourner ensemble, et que ça on aurait du mal à s'en passer.
Au-delà des difficultés, s'il vous plaît, c'est sérieux, au-delà des doutes, des tensions, des moments difficiles, Piccolo reste quand même, je suis une magnifique histoire d'amitié. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté.
Non, il y a un vrai défi à Piccolo. C'est le plus difficile, c'est d'accepter les autres.
Vivement lundi qu'on reprenne le train pour retrouver une vie tranquille, je te le dis.
C'est quoi vos prochains rendez-vous après les Florilèges?
Alors après les Florilèges, on a une date à Paris le samedi 10 juin à 17h au Théâtre des Déchargeurs. Ensuite, on prendra un peu de vacances. Pour certains, ça sera aussi du travail, puisqu'il y en a qui jouent la comédie ou qui terminent des choses, qui font des emplois du temps pour les années suivantes. Et puis ensuite, on est à la rentrée plutôt dans notre région, dans le Grand Est, à Épinal, à côté de Nancy aussi. Et puis on ira chanter à Annecy, donc c'est toujours dans l'Est, au mois de mars prochain. Et donc les dates arrivent comme ça, tranquillement. Et puis on a en préparation un nouveau spectacle qu'on espère bien créer dans la saison 18-19. Donc on a encore un petit peu de temps, mais ça commence à presser. Oui, il faut que ça germe.
On peut trouver toutes les dates de Piccolo sur le site internet www.piccolo.fr, hein, ou alors sur le Facebook de Piccolo, mais en mettant Piccolo Groupe Vocal. Et puis là, on peut suivre des péripéties qui sont un petit peu plus légères, on va dire.
Si vous n'avez rien à rajouter, je vais vous remercier d'avoir répondu à mes quelques questions pour Radio Campus. Merci à vous.
Merci. Pour cette émission, le DAHU et Cinéma Paradiso remercie Claudia Jarocchi. Le DAHU vous dit à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture. Il y en a pour tous les goûts.